À présent, Michael Ponche pour un nouveau journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Michael.
Bonjour Marion, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Les premières messes ce jeudi au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince avant les funérailles nationales du président Jovenel Moïse. Demain, on en parle avec notre confrère du Nouvelliste Franz Duval. Dans un instant, on va se pencher aussi aujourd'hui sur la position de l'ONU, son rôle après ces événements en Haïti, alors que des voix dénoncent une communauté internationale trop intrusive. Et puis, dans le journal de la première avec vous, Sarah Vildeuil, on sera en Martinique où des personnels soignants continuent à se mobiliser contre l'obligation vaccinale. Sarah Vildeuil.
Libre de leur choix.
Merci, on en parlera en effet donc tout à l'heure de ces soignants qui ne veulent pas du pass vaccinal. Merci et à tout à l'heure. Avant d'en venir à tout ça, permettez-nous de revenir un instant sur les critiques portées contre RFI depuis mercredi soir, sur les réseaux sociaux d'abord, puis ensuite par certains médias haïtiens. Nous avons publié sur notre site internet un article mardi au sujet de l'organisation des funérailles de Jovenel Moïse. Article accompagné à l'origine d'une photo d'illustration représentant le mur tagué d'une maison délabrée. Des internautes haïtiens alors ont critiqué ce choix et nous accusent d'avoir cherché à dénigrer la ville de Cap-Haïtien et Haïti en général. Avec nous en studio, Christophe Champin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la direction numérique de RFI. Très clairement, Christophe, RFI n'a pas cherché à aucun moment à dénigrer Cap-Haïtien.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous travaillons à partir de banques de photos qui sont fournies par les agences de presse. Et leur nombre est limité. Et pour des questions de droit, nous ne pouvons utiliser que ces photos et pas toutes celles que l'on peut trouver sur Internet. Alors effectivement, cette photo ne correspondait pas précisément au contenu de cet article. Cela nous a été signalé et nous avons très vite réagi en changeant l'illustration pour une photo plus adéquate de la ville de Cap-Haïtien. J'ajoute que nous faisons notre travail avec le plus grand sérieux et avec tout le respect qui est dû à nos auditeurs et à nos internautes. Et nous présentons sincèrement nos excuses à ceux qui ont pu être heurtés par cette photo. En revanche, la virulence de certaines réactions qui vont jusqu'aux menaces contre nos journalistes ne peut être tolérée. Et enfin, Michael, il est important de préciser que notre correspondante en Haïti, Amélie Baron, n'est en aucun cas associée au choix des photos qui illustrent les articles.
Christophe Champin, responsable donc de la direction numérique de RFI, merci pour ces précisions. Et cela fait, eh bien, reprenons à présent donc le fil de l'actualité haïtienne pour en parler. C'est le rédacteur en chef du Nouvelliste qui est avec nous. Bonjour, Franz Duval.
Bonjour.
Les hommages ont donc commencé, je le disais, dans le sommaire, à être rendus au président assassiné Jovenel Moïse. Une messe aura lieu ce jeudi en l'église de Saint-Pierre, de Pétionville à Port-au-Prince. Mais c'est surtout à Cap-Haïtien que ça se passe. Donc, avant demain des funérailles nationales, une messe sera notamment célébrée aujourd'hui en la cathédrale de la ville. Cap-Haïtien, France, où vous nous dites qu'il règne une certaine tension.
Alors, deux choses se passent en même temps au Cap-Haïtien, où une équipe du Nouvelliste est sur place depuis 3 jours. D'abord, c'est les préparatifs pour les funérailles sur les terres familiales du président Jovenel Moïse. La ville est en train de se préparer, on fait le grand ménage avec peu de moyens, mais on le fait. Les 19 mairies du département du Nord ont ouvert des livres de condoléances. Les gens se pressent dans les mairies pour signer, avec curiosité, mais aussi avec une certaine dévotion envers ce président assassiné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une tension naturelle dans une ville qui n'était pas réputée à 100% en faveur de Jovenel Moïse, mais surtout une ville, le Cap-Haïtien, qui reproche à Port-au-Prince d'avoir assassiné en 200 ans d'histoire 5 présidents venus du Nord. Alors, le reproche est en train de faire sa petite route dans la communauté. Tout cela alimente la tension, ajoutée à la tension politique naturelle qui existe dans la région.
Et d'ailleurs, le Nouvelliste, hein, France, nous apprend que Léon Charles, le chef de la police, qui est arrivé hier à Cap-Haïtien, a été la cible de jets de pierre. Pendant ce temps, en tout cas, France, la première dame, Martine Moïse, a reçu les condoléances de plusieurs personnes dans la capitale. C'était donc hier.
Tout à fait, c'était la séance officielle des salutations, c'est comme ça qu'on dit en Haïti. Madame Moïse a été au musée du Panthéon National avec sa famille, accompagnée de ses enfants, et recevoir les condoléances de la communauté internationale, des leaders de la société haïtienne, des membres du gouvernement, car le jour d'avant, quand le gouvernement sortant de Claude Joseph avait organisé une cérémonie d'hommage, Madame Martine Moïse n'était pas présente. Hier au Mupana, les Haïtiens ont remarqué deux choses. Madame Moïse était quasiment seule, sans les membres du gouvernement, mais surtout, sa sécurité était assurée par des gardes du corps venus des États-Unis. Il n'y avait pas de présence de la police nationale haïtienne qui n'avait pas pu assurer la sécurité de son mari, assassiné le 7 juillet dernier.
Un gouvernement France emmené par le nouveau Premier ministre Ariel Henry, équipe saluée par l'Organisation des États américains, aussi par les États-Unis. En revanche, vous nous dites dans le Nouvel East que ce gouvernement est aussi très critiqué par l'opposition et la société civile.
Il faut dire que le gouvernement de Ariel Henry a été choisi par M. Jovenel Moïse. Ceux qui sont ministres aujourd'hui étaient déjà pressentis pour être ministres du vivant du président Jovenel Moïse. L'OEA et les États-Unis ont fait comme ils ont fait depuis quelques années. Ils ont salué la formation de ce gouvernement. Ils sont totalement d'accord avec ce qui se fait. Par cas, l'OEA et les États-Unis réclament des élections en septembre prochain. Il faut dire que la logique de la communauté internationale vue des États-Unis, c'est qu'il faut faire très vite. Il faut faire même comme si rien ne s'était passé. Le président a été tué, mais sa politique continue. Du côté de la société civile haïtienne, alors il y a une composante de la société civile qui dit avoir intégré le gouvernement et avoir présenté des membres qui font partie du gouvernement. Trois ministres seraient membres d'une partie de la société civile et il y a une autre partie de la société civile qui, eux, exigent de connaître clairement le mandat de M. Ariel Henry, qui veulent faire des négociations. Mais pour le moment, le Premier ministre a décidé d'avancer avec ceux qui veulent avancer avec lui et la communauté internationale supporte cette façon de faire.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvel East, merci. Ce qui nous emmène directement du côté de New York, où l'on retrouve la correspondante de RFI à l'ONU, Carrie Noton. Bonjour Carrie.
Bonjour.
Parmi cette communauté internationale dont parlait à l'instant Franz Duval, il y a bien sûr les Nations Unies et le BINU, hein, le bureau intégré de l'ONU en Haïti, qui a apporté son soutien à Ariel Henry dès le week-end dernier, d'où certaines voix que l'on a entendu dire que c'est un Premier ministre avant tout choisi par l'étranger et par l'ONU. La question de la gouvernance a en tout cas été évoquée, c'est une certitude, à l'ONU dans les premières heures, Carrie, qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse.
Le Conseil a été convoqué en urgence sur la question le lendemain. Il s'est vite rendu compte que ça allait être épineux, mais la ligne était claire à New York. On attend de voir ce qui se dégage, c'est à Haïti de décider. Et la position la plus raisonnable pour laquelle optaient les diplomates en attendant le retour de l'ordre, c'était de dire qu'il fallait respecter le choix de Jovenel Moïse. Après tout, il avait bien désigné Ariel Henry Premier ministre 2 jours seulement avant sa mort. Cela explique certainement le message envoyé par le Core Group samedi dernier, qui prenait position pour Ariel Henry. Claude Joseph. Tout le monde ici se félicite qu'il reste ministre des Affaires étrangères, mais est surtout soulagé de savoir qui va être le prochain interlocuteur, surtout.
Claude Joseph Carrie, qui avait demandé de l'aide immédiatement après l'assassinat du président Moïse au BINU. Qu'en a-t-on dit alors à l'ONU à ce moment-là ?
Alors là aussi, il faut se rendre compte de deux rythmes totalement opposé, celui de la crise politique à Port-au-Prince contre celui des couloirs feutrés de l'ONU. Claude Joseph aurait envoyé une lettre à Hélène Lalim, qui dirige le bureau de la mission politique des Nations Unies, paniqué à juste titre. Il aurait demandé de l'aide, mais figurez-vous que le Conseil, qui est tout à fait au courant puisque les membres en ont discuté de manière informelle avec le secrétaire général Guterres, eh bien ce Conseil se défend de pouvoir faire quoi que ce soit puisqu'il n'a pas été saisi, lui, directement par le pouvoir haïtien. Donc pour l'instant, aucune requête assez précise n'est officiellement parvenue au Conseil. Ce qu'on ressent surtout, c'est une communauté internationale très attentiste, consciente des échecs malgré les 15 ans de mission de maintien de la paix, dépitée par le pouvoir des gangs haïtiens. Plus de 10 milliards et demi de dollars ont été dépensés entre la MINUSTA et la MINUJUST. Les États membres sont en majorité frileux pour impliquer l'ONU plus à nouveau. Le Conseil fait attention aussi car elle sait que la Chine ne soutiendra pas un envoi d'aide. Pékin ne peut pas sentir Haïti, qui est l'un des seuls pays à reconnaître officiellement Taïwan. Enfin, pour se favorable à un soutien de la communauté internationale, cela doit passer par plus de moyens à la police haïtienne. C'est la position américaine ou française notamment. Washington a d'ailleurs déboursé l'an dernier 21 millions de dollars d'équipement et de formation. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour ici à l'ONU.
Les États-Unis, comme d'autres voix, qui maintiennent en tout cas pour Haïti l'objectif perspective des élections présidentielles et législatives au mois de septembre, qu'arrive véritablement aussi, c'est ce vers quoi pousse l'ONU.
Oui, elles ne dévieront pas de leur position officielle et continueront à maintenir cet objectif tant qu'il n'est pas dépassé. 3 semaines avant l'assassinat du président Moïse, c'était déjà un leitmotiv des membres du Conseil et d'Hélène Lalime, la représentante de l'ONU à Port-au-Prince. Ils ont unanimement demandé de garantir un processus électoral libre, transparent et inclusif aussi. Encore une fois, les États-Unis ont expliqué avoir financé des opérations et des associations dans ce sens à hauteur de 3 millions de dollars. Tous les membres sont conscients de l'augmentation des kidnappings, des viols et des homicides depuis le début de l'année. Mais pour eux, cela reste le cap à garder, car pour eux, c'est la mission de leur auguste groupe. Continuer à montrer le cap, coûte que coûte, même si cela crée de facto un décalage avec la réalité.
Et c'est en tout cas une priorité que s'est donnée Ariel Henry lors de son discours d'installation avant-hier. Merci beaucoup, Carré Notton. Je me tourne à présent vers Marie Normand. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu la presse, Marie, le New York Times, qui soutient que la lutte du pouvoir, à laquelle on a assisté en tout cas à Port-au-Prince ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien, elle s'est jouée aussi du côté de Washington.
Oui, le journal écrit que des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des groupes d'intérêts haïtiens rivaux se tournent vers des lobbyistes à Washington pour mener une bataille par procuration coûteuse et de plus en plus intense pour gagner en influence aux États-Unis. Le New York Times dit avoir eu accès à des textes, des SMS qui démontrent comment la société Mercury Public Affairs a, par exemple, travaillé à positionner des successeurs potentiels à Jovenel Moïse, a été approchée pour accuser leurs rivaux aussi d'être liés à l'assassinat du président Moïse. Cette société, elle est connue du gouvernement haïtien, puisque selon le New York Times, le gouvernement lui a versé au moins 285 000 dollars au cours du second semestre de l'année dernière. Et ces sommes avaient augmenté ses dépenses dans les mois précédant l'assassinat. Selon le New York Times, c'est le dernier exemple en date de l'ampleur et de la portée de l'industrie de l'influence à Washington et de son poids dans la politique étrangère américaine.
Firefighters at the front lines of the Tamarack Fire are not only battling the ever-growing flames, they're also being forced to contend with.
Voilà, on oublie, on passe à la politique haïtienne, à ce qu'il se passe, aux États-Unis. C'est la chaîne américaine CBS que l'on entend, chaîne qui fait ses gros titres sur les incendies qui brûlent à l'ouest des États-Unis, près de 80 feux immenses, Marie, qui ravagent des milliers d'hectares.
Oui, le plus gros, c'est le Bootleg Fire. Il se situe dans l'Oregon et en 2 semaines, écrit The Oregonian, il a brûlé 162 000 hectares. Ces dernières heures, les températures sont plus fraîches, le taux d'humidité plus élevé, les vents plus calmes, ce qui a permis aux pompiers de progresser dans la lutte contre les feux. Plusieurs ordres d'évacuation ont aussi été lancés en Californie, où certains de ces feux ont pris un virage vers la destruction, écrit le Los Angeles Times, qui évoque l'état d'épuisement des pompiers confrontés à plusieurs fronts. 2 bâtiments ont été détruits en Californie et le Dixie Fire en menace 800 autres, selon les pompiers. Les panaches de fumée ont pris une telle ampleur qu'ils provoquent maintenant une brume jusqu'à la côte est, ajoute le quotidien. Une statue de la liberté noyée dans ce smog s'affiche en une d'Axios. Le média américain explique que cette fumée est visible depuis l'espace et qu'elle entraîne une pollution atmosphérique nocive, des alertes à la qualité de l'air dans le haut du Midwest et dans des villes de la côte Est, notamment New York donc, mais aussi Philadelphie et Washington.
Ce méga-feu dont vous nous parlez, Marie, qui pourrait avoir été provoqué par la chute d'un arbre sur des lignes électriques d'un fournisseur d'électricité.
Et ce n'est pas la première fois que Pacific Gas and Electric est mise en cause. Il l'avait déjà été, rappelle le Los Angeles Times, dans le cas de l'incendie de Paradise, le plus meurtrier de l'histoire récente de Californie, 85 morts. Eh bien, Michael, mercredi, la société a annoncé qu'elle prévoyait d'enfouir 10 000 miles, 16 000 kilomètres de lignes électriques, soit environ 10% de ces lignes en surface, un projet qui pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars. Et selon le New York Times, toujours, l'annonce a suscité des questions de la part des détracteurs de longue date de cette compagnie d'électricité sur la part de cette enveloppe qui sera supportée par les contribuables. contribuables et non par les actionnaires.
Et l'Ouest canadien, lui aussi, subit ces méga incendies. Des milliers d'habitants, notamment, ont dû fuir et quitter leur maison. Parmi les zones particulièrement touchées, la vallée de l'Okanagan, proche de la frontière américaine. Mandy, une habitante, vit justement là, dans cette vallée. Elle est entourée par les feux. Écoutez.
Comment profiter de l'été sous un ciel recouvert de fumée? Nous vivons près de la plage et nous ne pouvons pas en profiter. On ne voit pas le soleil. De la cendre tombe du ciel. On ne peut plus rien faire dehors. Ça fait 30 ans que j'habite ici et je suis habituée à ça. Mais cette année, ça dure particulièrement longtemps. D'habitude, ça ne dure que quelques semaines et on s'habitue à la fumée. Mais là, ça semble ne jamais vouloir s'arrêter.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. On termine sur une note plus positive. Ça se passe du côté de Tokyo. Hein. Si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu que demain, eh bien certaines épreuves ont déjà commencé. C'est le cas du foot. Le Mexique, tout à l'heure, affrontait la France. Et quelle entrée en matière pour les joueurs mexicains. Ils ont écrasé la France 4-1. Une victoire large et méritée pour une sélection mexicaine expérimentée à l'image de son gardien qui est passé lui-même par le championnat de France, et Guillermo Ochoa.
On est content pour les résultats, bien sûr que c'est positif pour nous démarrer le championnat comme ça, non? Pas surpris pour le résultat parce que je connais bien la qualité de les jeunes mexicains, de l'équipe mexicaine, il a beaucoup d'expérience. Et ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc on joue pas ensemble avec le moins 23, mais avec l'équipe A, donc... Aujourd'hui, je pense qu'on a mérité la victoire de tout le match. On était meilleur.
Voilà. Bravo aux Mexicains. Tant pis pour les Français. Soyons beaux joueurs. Il est 9h26 à Fort-de-France. Le journal de la première, c'est avec vous, Sarah Vildeuil, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
On commence donc par ces soignants de Martinique qui sont dans les rues pour dénoncer l'obligation vaccinale.
Oui, mais aussi contre, ils dénoncent aussi le pass sanitaire. Plusieurs dizaines de personnes ont défilé hier à l'appel de l'intersyndicale de la santé. Mais l'idée n'est pas non plus d'opposer vaccinés et non vaccinés pour Jean-Pierre Jean-Louis. Le secrétaire général de FO Santé est au micro Martinique la première de Jean-Baptiste Anatole.
Il faut qu'on sache bien qu'on n'est pas contre la vaccination. Je le répète, l'intersyndicale de la santé n'a rien contre les vaccinés. Ce n'est pas un combat des vaccinés contre les non-vaccinés. C'est l'obligation vaccinale qui nous dérange. Et le pass sanitaire est la tête à nos droits fondamentaux. C'est ce que nous voulons marquer aujourd'hui, notre détermination, pour dire non à Macron qu'on n'accepte pas.
Vous prenez ça comme un chantage?
Pas comme un chantage, mais il n'est pas normal qu'hier on nous applaudissait. Aujourd'hui, on nous dit que si on refuse d'être vacciné, on va nous supprimer notre emploi. Dans un pays comme la Martinique, où un taux de chômage de 30%, voire 40%. Donc c'est inadmissible et inconcevable que le président de la République veuille nous matraquer aujourd'hui. C'est non.
De son côté, hier, le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel a interpellé le gouvernement sur la situation sanitaire outre-mer. Victorin Lurel précise que le taux de couverture vaccinale dans les territoires est 3 fois moins important que dans l'Hexagone. Le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, lui a répondu. L'état d'urgence sanitaire pourrait être réintroduit en Guadeloupe, comme c'est déjà le cas à la Martinique. On part maintenant en Guyane, où la criminalité est toujours un fléau. En 2017, des dizaines de milliers de personnes avaient défilé pour dire non à l'insécurité après une explosion du nombre d'homicides. Aujourd'hui, les chiffres inquiètent encore. Les explications de Nickerson Perdius de Guyane la Première.
Après l'explosion du nombre d'homicides en 2016, 42 morts en 2017 et en 2018, les chiffres étaient nettement en baisse avec 23 homicides. En 2019, une nouvelle hausse est constatée avec 32 meurtres, chiffre qui a continué d'augmenter en 2020. Selon les données du ministère de l'Intérieur, entre 2018 et 2020, les homicides étaient plus fréquents dans les territoires d'outre-mer comparés à l'Hexagone. Et c'est en Guyane que le nombre de victimes est très nettement plus important. Une situation qui est désormais préoccupante. Autre inquiétude, le nombre de victimes de violences dans le cercle familial. Hausse nettement observée sur l'ensemble des territoires d'outre-mer et dans l'Hexagone avec les mesures de confinement. Baisse en revanche chez nous des vols avec violence et des cambriolages. Notez enfin que c'est en Guyane que le taux de victimes de violences sexuelles a été le plus élevé entre 2019 et 2020.
Et puis fier de la lutte contre l'orpaillage illégal, une cause nationale, c'est ce que souhaite Gabriel Serville. Celui qui est aujourd'hui à la tête de la collectivité territoriale de Guyane a fait sa dernière intervention en tant que député hier. Gabriel Serville, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet, a remis son rapport avec 44 propositions à l'Assemblée nationale. Il aimerait qu'un conseiller spécial soit nommé auprès du président de la République ou du Premier ministre. Chaque année, près de 10 tonnes d'or sont extraites illégalement du sous-sol guyanais, Michael.
Merci beaucoup Sarah Wildeuil de La Première. Ainsi se referme cette édition du rendez-vous d'Haïti et des Amériques que vous pouvez retrouver évidemment sur RFI Pure Radio. À demain.